Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis 1984, les documentaires d'une vie, une œuvre nous initient aux grandes personnalités de l'histoire des arts. Aujourd'hui, nous ouvrons de nouvelles perspectives et élargissons notre voyage biographique et documentaire à de grandes figures de la société civile. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bienvenue dans Toute une vie. Aujourd'hui, à l'heure du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, adepte de l'absurde et de l'humour noir, il a créé des personnages très singuliers, du Guéluron au professeur Burp, en passant par Super Dupont, Marcel Gottlieb. 1934-2016, c'est toute une vie d'autodérision et de déconnade.
Je considère que... Je parle pas pour moi, hein, quand même, pas tout à fait. La création artistique, c'est l'expression d'une douleur, quelque part. À noter que quelque part, c'est vachement à la mode en ce moment.
Le tribunal des flagrants délires, 1981.
Et qui a la chance de pouvoir s'extérioriser au travers d'une création. Je crois qu'il y a plein de gens qui ont des douleurs quelque part aussi. Et un balayeur de rue, je pense pas qu'il puisse canaliser sa souffrance existentielle en
avec son balai.
En balayant la rue. Ouais. Tandis qu'un type qui compose de la musique, un type qui fait des tableaux, qui fait de la sculpture, et incidemment qui fait de la bande dessinée, il a la chance, pendant qu'il fait ça, d'oublier un peu les emmerdements qu'il pourrait éventuellement avoir. Quoi. Mmh. C'est ça que je voulais dire. Et donc, il arrivera peut-être un jour où les gens seront légèrement plus équilibrés, où il y aura moins de cons. À ce moment-là, peut-être qu'il n'y aura plus de créateurs.
Oui, mais alors,
il y aura des gens heureux.
Ce que j'allais dire, c'est la fin de la bande dessinée.
Ça peut foutre du moment que tout le monde est content.
Toute une vie. Marcel Gottlieb. Voilà, voilà. Virginie Bloch-Lenné. Clotilde Pivin.
Le dessin que je pratique aujourd'hui, qui est un dessin assez simple, qui est aussi proche du dessin animé, d'un Matt Groening avec ses personnages des Simpsons aux gros yeux, aux grosses bouches comme ça, doit...
Jules, dessinateur.
Énormément à Gottlieb dans la mesure où c'est le seul réellement, peut-être un petit peu avec Uderzo, mais vraiment Gottlieb, que j'ai copié. Et que j'ai copié et copié encore, et sa façon d'ouvrir les bouches, qu'on voit les amygdales des personnages, ses grandes langues, ses yeux, toute la physionomie un peu de Gottlieb, je l'ai copié, je l'ai pas décalqué. Il y avait ce truc notamment, parfois il y a certains personnages, quand c'est un peu des dessins paroxystiques, qui ont une... on ne sait pas si c'est un filet de bave ou une espèce de chewing-gum, en gros, qui relie leur palais au bas de leur bouche, comme ça. Mais quand ils ouvrent la bouche, il y a une espèce de scotch ou de liane, comme ça, à l'intérieur de leur bouche. C'est très bizarre si on zoome un petit peu sur les dessins et ça. Et je me rappelle être fasciné par ce détail-là et le reproduire plein de fois de suite. Et malheureusement, j'ai jamais atteint cette technique et cette maîtrise qu'ils pouvaient avoir.
Non, mais.
Quand je serai grand, 2004.
D'ailleurs, j'allais encore à l'école. Mmh. C'était un espèce de rêve. Je faisais des dessins pour les copains. J'illustrais moi-même mes rédactions. Enfin, le dessin m'attirait beaucoup. Et tout le monde autour de moi disait « Oh là là !» Les copains, ils disaient « Gottlieb, il dessine vachement bien. » Ma mère, elle était très fière. Elle le disait aussi un peu à moitié hongrois, à moitié etc.
Et, à moitié hongrois.
Oui, parce qu'elle est hongroise. Elle était hongroise, ma mère. Et puis, elle était juive hongroise. Donc, elle, en fait, quand elle est arrivée en France, elle parlait le hongrois. Après, elle a un peu appris le yiddish et un peu le français. Et sur la fin, elle parlait une sorte de langue qui était constituée des trois mélangés. Il y avait avec moi qui pouvait vraiment la comprendre. Et donc, ma mère, mon fils, il dessine bien, il est intelligent, etc. C'est le plus beau de tous, c'est les histoires des mères juives.
Catherine Robin, vous êtes journaliste à Elle, vous êtes critique de bande dessinée. À quel âge avez-vous lu et aimé Gottlieb ?
Mais en fait, Gottlieb, je ne l'ai pas découvert enfant, parce que j'ai grandi dans une famille qui était plutôt étiquetée à droite, et donc je n'avais pas Pif Gadget à la maison, on ne lisait pas l'Humanité, et c'était plutôt Le Figaro et les Triplés, voilà, chacun a l'enfance qu'il peut. Et donc j'ai découvert Gottlieb plus tardivement, je dirais à la fin de l'adolescence, vers 17-18 ans, quand j'ai fait connaissance avec quelqu'un qui est devenu une très bonne amie et qui, elle, lisait, était une grande lectrice de l'Écho des Savanes. Et donc, elle avait chez elle une collection. Elle était fan d'Édicat. Et moi, j'ai commencé à regarder avec elle, enfin chez elle, quand je me retrouvais chez elle, les planches de Gottlieb. Et ensuite, j'ai découvert les Dingo Dossiers et la rubrique à braque, qui là sont devenues très vite des bibles installées sur mes bibliothèques successives et que je lis désormais religieusement à mes enfants qui eux-mêmes les lisent seuls, ce qui signifie quand même quelque chose. Et ce qui est assez drôle finalement, c'est que Marcel Gottlieb, il est devenu une sorte de Madeleine pour moi, alors même que je ne l'ai pas lu enfant, mais il y a quelque chose en lui et je pense que c'est parce que lui a su conserver une grande part d'enfance en lui qui résonne en moi très très fort et très régulièrement j'ai envie de me mettre sous une couverture avec un thé, des biscuits, les Dingo Dossiers et être dans une espèce d'élan régressif comme ça alors même que je ne l'ai pas lu enfant.
Bon, j'ai fait quelques années parce qu'il fallait que je travaille dans un bureau qui n'a rien à voir avec le dessin. Mmh. Et en même temps, j'ai essayé les arts et métiers. J'avais mon brevet et je croyais que les arts et métiers, ça apprenait à dessiner.
Oui.
Donc j'ai suivi un cours auquel j'ai absolument rien compris. Et j'ai laissé tomber. Et ensuite, je suis allé aux arts appliqués. Et là, j'ai pris des cours du soir de publicité avec, pour la petite histoire, avec Pichard. Georges Pichard, qui est un grand de la bande dessinée, et qui a dessiné dans Pilote, d'ailleurs. Et c'est lui, à l'époque, qui donnait ses cours du soir. J'avais des dessins à moi. Et notamment, comme je suis un fou, à l'époque, j'avais découvert Victor Hugo. J'ai toujours été un fou des romans de Victor Hugo, et j'avais illustré Notre-Dame de Paris pour m'amuser. Et j'avais honte. Mais en tout cas, il a regardé et je lui ai dit non, ça c'est rien. Il m'a dit mais comment ça c'est rien, mais c'est très très bien. Et c'était la première fois de ma vie qu'un professionnel trouvait bien mes dessins. D'habitude, c'était des copains, ma famille, la concierge, mais jamais quelqu'un digne de cette profession-là. Alors, imaginez plus tard quand ça a été Goscinny.
Olivier Bouquet, vous êtes scénariste de bande dessinée.
Oui.
Et grand amateur de Gottlieb.
C'est vrai.
Qu'est-ce qu'il y avait dans les Dingo Dossiers et la rubrique à braque ?
Moi, je connais pas bien la chronologie de tout ça parce que j'étais juste un lecteur. J'ai découvert ça en fin d'adolescence. Et donc, j'ai découvert les albums un peu dans le désordre chez la mère d'une amie, en fait. La différence vraiment entre les Dingo Dossiers et Rubrique à Braque, c'est que les Dingo Dossiers, ils étaient scénarisés par Goscinny. Et Rubrique à Braque, c'est 100% Gottlieb. Mais pour moi, ça a toujours été un peu la même chose, parce que comme j'en reconnaissais le trait de Gottlieb, avant tout, j'ai pas vraiment noté de différence. C'est toujours des rubriques, c'est toujours des choses qui, normalement, ne devraient même pas être publiables en album, parce qu'elles ont peu de rapport entre elles, sauf qu'elles ont un rapport génial, c'est que c'est toujours le même ton, et le même humour, et le même dessinateur, et c'est en ça que c'est... Moi, j'avais jamais, à l'époque, connu de bande dessinée comme ça. Pour moi, il y avait forcément un héros. Et quand, je crois que c'est en introduction du premier tome des rubriques à braque, il dit, parce qu'il est conscient qu'il n'y a pas de héros, il dit « Toute bande dessinée qui se respecte doit avoir un héros fort, grand, auquel on puisse s'identifier. Et ce héros, c'est Isaac Newton. » C'est pas vrai. Le héros, c'est Gottlieb. Il est là tout le temps. qu'il soit dessiné ou pas, il est vraiment le personnage principal de ces bandes dessinées. Il est tout le temps là à faire des commentaires. La voix off, elle est omniprésente. Et c'est toujours son point de vue sur les choses.
Que lisiez-vous en même temps à l'adolescence? Et en quoi c'était plus drôle ou d'un humour différent?
Je crois que j'avais plus ou moins laissé tomber la BD franco-belge parce que, en fait, c'est quelque chose qui nous est donné quand on est petit. On a tous les Astérix, on a tous les Tintins, on a tous les Lucky Luke à disposition. Puis une fois qu'on a fait le tour, on a l'impression que c'est ça la BD. Et je pense que c'est vraiment grâce à ces vacances en été avec mon amoureuse de l'époque chez sa mère que j'ai redécouvert la bande dessinée et que voilà, j'ai des souvenirs d'avoir pleuré de rire d'une façon très différente, mais pas tant que ça finalement que Calvin et Hobbes, parce que Calvin et Hobbes aussi, de Bill Watterson, c'est très drôle et c'est très tendre aussi. Et c'est à la fois très enfantin et très adulte. Et c'est quelque chose que sait très bien faire aussi Gottlieb, en tout cas dans ce à quoi j'avais accès à l'époque, parce que j'avais pas les Ragnagna et les Ralovli, qui peut-être elle les avait pas, ou peut-être elle les cachait, ou je sais pas. Je les ai découverts juste un an après.
Vous pouvez expliquer, Olivier Bouquet, ce que c'est Ralovli et Ragnagna?
Je pense que c'est un peu le... l'expression retenue de Gottlieb, qui devait sans doute faire des dessins sur les nappes scatologiques, obscènes et sexuelles, et qui s'est dit, oh, ben, je peux aussi les mettre dans des planches de bande dessinée. Je pense qu'il a pas fait ça du tout avec Goscinny, si je me rappelle bien. Il a fait ça après, à l'Écho des Savanes, ou je sais pas, honnêtement. Moi, je les ai encore une fois découverts en album. Et là, c'est marrant, parce que pour un jeune homme de 16-17 ans, moi, je découvrais un peu la sexualité au même moment. Et c'était, il y avait une décomplexion, parce que évidemment aujourd'hui on s'en rend pas compte, c'est hyper accessible de partout. Mais moi, je pense réellement que la première fellation que j'ai vue de mes yeux, c'est une fille qui découle le sexe de la bête de Frankenstein par erreur et qui lui recoue. Donc il y avait un truc qui était forcément super drôle et très naturel. En plus, il y avait jamais, j'ai pas le souvenir que c'était malsain. C'était juste du gag énorme et pas gênant. Il y avait pas non plus des images vraiment obscène, c'était toujours tourné de manière marrante.
Pascal Horry, vous êtes historien. Pouvez-vous dire en quelques mots ce qu'était Pilote avant que Gottlieb y arrive?
Quand Marcel Gottlieb arrive chez Pilote en 1964, on peut dire que ce journal, cet hebdomadaire, est à son apogée. Mais pas simplement le journal, on peut dire que dans l'histoire de la presse pour la jeunesse française, dans l'histoire de la bande dessinée, on n'a jamais plus connu ça. C'est l'âge d'or. Au milieu des années 60, René Goscinny, parce que ça part fondamentalement de lui, pas que, mais fondamentalement c'est quand même de lui que ça part, a réuni autour de lui des représentants de toutes les générations du dessin et du scénario, qui ont souvent commencé ailleurs, Tintin, Spirou, la presse belge, etc., mais qui souvent commencent à Pilote, ou, ça va être le cas de Marcel, ont leur pied à l'étrier vraiment à Pilote. Par exemple, c'est quand même un des premiers à accueillir, je parle de René Goscinny, des femmes. Bon, ben Claire Bretéché, elle a commencé un petit peu avant, mais elle s'épanouit à Pilote. Par ailleurs, il y a aussi la génération de Giraud, Gire, Moebius, qui s'épanouit à Pilote, de Fred, on ne pourrait pas tous les citer. Et puis les plus jeunes, il faut savoir que dans quelques années après l'arrivée de Marcel Gottlieb, il va y avoir le début de Tardy, ou même le jeune Anki Bilal qui va recevoir un prix. Donc il y a 3-4 générations. Et c'est quand même très exaltant de se retrouver là. Et puis pour Marcel Gottlieb, la grande chance, c'est que René Goscinny le prend en affection. Il y a un rapport quand même filial. Il faudrait demander au docteur Freud ce qu'il en pense, surtout compte tenu de la suite des événements. Et c'est quand même un grand honneur pour le... relativement jeune, Marcel Gottlieb, en tout cas jeune en ce qui concerne son expérience, essentiellement availlant hein, jusque-là, dans la presse proche du Parti communiste, il y a une trentaine d'années effectivement, c'est quand même très important de pouvoir travailler directement avec, comme scénariste, René Goscinny, puisque les Dingos dossiers, qui vont durer environ 2 ans, c'est une collaboration entre Gottlieb dessinateur et Goscinny scénariste, le grand scénariste de sa génération, le grand scénariste d'humour et de comique, donc c'est raccord.
En fait, Moi, quand j'étais petit, j'étais un énorme lecteur de bande dessinée, alors de la BD franco-belge, j'étais abonné au journal de Spirou.
Jules.
J'ai découvert vraiment la BD avec Astérix, Lucky Luke, les Schtroumpfs, un peu comme toute ma génération. Et en réalité, j'étais dans une école un peu expérimentale qui s'appelait l'école de Crolly, dans le bois de Vincennes, un peu dans le type Montessori, très héritière de la pensée 68, surtout des psys et des profs qui mettaient leurs enfants là. Et en CM1, j'ai un prof qui voyait les dessins que je faisais en classe, qui m'a dit, mais qui a dit à mes parents, je crois, il y a quelque chose qui lui plairait beaucoup, il faudrait qu'il découvre, c'est Gottlieb. CM1, c'est assez petit, mine de rien, et ce qui fait que pour le Noël de cette année de CM1, j'ai reçu au pied du sapin l'album des rubriques à braque. Oui, c'était les rubriques à braque, c'était le tome 1, c'est avec ce graphisme comme ça qui m'a toujours fait penser à un drapeau hitlérien, parce qu'il y avait ce graphisme noir, rouge, blanc, avec ce rond blanc comme ça, et ces personnages qui arrivaient, où il y avait cette espèce de carnaval, de parade, avec évidemment Isaac Newton, et la coccinelle, etc., et puis tous les animaux, tous les personnages comme ça récurrents des planches de Gottlieb. Et pour moi, cette arrivée à travers ce rond blanc, sur ce fond rouge, faramineux, un jour de Noël au pied du sapin de CM1, ça a été un choc pour moi. Et ce qui fait que je suis devenu un adepte, un inconditionnel de Gottlieb assez tôt comme ça dans mon enfance. Et j'ai essayé de le refourguer à tous mes copains pour lesquels parfois ça passait un petit peu au-dessus. Et c'est vraiment par la suite ensuite que j'ai découvert tout le monde qui lui était proche, c'est-à-dire Fluide Glacial, etc., le Gottlieb plus contemporain. Et en fin de compte, j'avais aussi l'impression, parce qu'ensuite j'ai lu les dingos dossiers que j'ai découvert, c'est-à-dire tout ce qu'on pouvait trouver année après année, je demandais à mes parents de me les offrir, ces albums. Et à travers les dingos dossiers, pour le coup, c'était vraiment une plongée dans le temps, parce que déjà, les rubriques à braque, ça évoquait une France un petit peu lointaine pour moi, c'était plus tout à fait la France des années 80. Et en même temps, les dingos dossiers, ça c'était vraiment la France des années 50, avec des cartables en cuir, des enfants qui étaient dans des classes non mixtes, avec des shorts, chaperon, avec l'élève chaperon, avec toutes ces mésaventures en classe. Et c'était fascinant, passionnant, mais je comprenais absolument rien. Et il y avait par exemple le prince Ringuet, des personnages qui étaient des personnages plus ou moins d'actualité comme ça de l'époque. Ça me passait des kilomètres au-dessus. Et par la suite, moi, j'ai étudié l'histoire, j'ai fait des études comme ça, assez académiques et classiques et littéraires. Et en fait, je me suis rendu compte que l'humus de Gottlieb avait vraiment servi à plein de choses pour moi. Et pas seulement à me faire découvrir la folie de son dessin, mais à tout un monde en plus dont il était l'ambassadeur. C'est-à-dire ce monde-là des années 50-60, beaucoup plus que Mauriac ou Malraux. Pour moi, c'était Gottlieb.
Un monde corseté. Voilà, une France un peu étriquée dont il se moquait.
Dont il se moquait, oui. Alors, c'était pas un satiriste stricto sensu, mais en fin de compte, lui, c'est sa façon de se révolter, c'était les Beatles. Hein, il se met en scène parfois dans des planches comme ça. Et puis, petit à petit, il a accompagné cette révolution culturelle qu'il a pu avoir en France, du côté, justement, d'un monde un peu libertaire, d'un monde non conventionnel, d'un grain de folie, des pas justement sur son admiration des Beatles, en passant par son admiration pour Druillet, en passant par ses parodies du western spaghetti. Tout ça a accompagné la mutation à la fois de la pop culture et puis finalement vraiment effectivement de la société. Voilà, c'était à la fois cruel, un peu bizarre et un peu fou, un peu monomaniaque de la technique aussi, parce qu'il y avait, un soin vraiment un peu fou à la perfection du mouvement, du geste, de la proportion, que peu de gens avaient finalement dans sa bande. Il y avait plein de gens qui avaient tendance un peu à balancer leurs dessins comme ça, en privilégiant l'énergie et le coup de folie, mais sans avoir cette technique folle. Lui, il avait les deux. En soi, il avait la classe d'un ambassadeur.
Est-ce que Catherine Robin, c'est fait pour les enfants, les rubriques à braque et les dingos dossiers?
Alors, en théorie, je ne sais pas, mais là, j'ai sous les yeux deux enfants, deux petits cobayes de 8 et 12 ans, et qui sont totalement fans de Gottlieb. Après, c'est des enfants qui ont aussi connu la langue de Goscinny, via les Astérix, les petits Nicolas, etc. Il y a forcément Goscinny est aussi un de mes héros, bien sûr, dans mon panthéon de la bande dessinée. Et voilà, le lien est évident entre les deux, bien sûr. Et oui, je pense que c'est... Bon, après, on parle de la rubrique à braque et des dingos dossiers. Hein, on ne parle pas de Fluide Glacial un peu plus tard.
Ni de Pervers Pépère.
Voilà.
Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus. Tout tout à fait incongru, mais en me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché je me montre au doigt et me crie va te faire main incorrecte, voire parler grec. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson.
Pascal Horry, lorsque Gottlieb arrive chez Pilote en 1965, il est timide, il travaille chez Pourvoyant, mais il n'est pas sûr, pourtant ça marche, mais il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Et les planches qu'il donne à Goscinny, est-ce que vous vous en souvenez ?
Ce qu'ont en commun Gottlieb et Goscinny, c'est au fond d'être, il serait étonné, surtout Gottlieb qu'on le dise, mais des bons élèves qui aiment bien jouer au cancre. Parce qu'ils ont un rapport très fort à la culture savante, à l'idée d'encyclopédie, de manuel, etc. Et très spontanément, après un rapide échange, c'est l'idée des dingos dossiers qui l'emporte, c'est-à-dire jouer, mais de façon évidemment dérisive, le jeu du professeur, quoi, qui va enseigner les lecteurs. Donc il y a quelque part quand même chez ces deux hommes un certain respect pour cette culture-là, puis en même temps une volonté de faire rire et de rire à l'élite de tout. Ce qui me frappe, c'est dans le rapport entre les deux, à quel point rapidement, parce que ça c'est typique de Goscinny, on aura compris que j'ai une certaine admiration pour le personnage, rapidement la volonté, à peine plus de 2 ans, de laisser Gottlieb libre des scénarios. Ce qui fait qu'on sent bien les différences entre les deux types de scénarios. Il n'en reste pas moins que passer des dingos dossiers à la rubrique à braque, ça veut dire que le maître a complètement libéré celui qui n'est pas son esclave, mais qui a été certainement son élève. Et ensuite, quand la séparation aura lieu, c'est parce que, non pas l'élève veut remplacer le maître, non, vraiment pas, mais veut aller plus loin dans une forme de radicalité que Goscinny ne comprend pas en tous les cas pour Pilote. Hein. D'où la nécessité pour Gottlieb d'aller voir ailleurs.
Vous avez pris, Olivier Bocquet, quelques albums avec vous.
J'ai repris le plus usé chez moi, mais parce qu'en fait, souvent, je les ai soit perdus, soit donnés, soit tellement détruits que je les ai rachetés. C'est le tome 2, T-A-U-M-E, de Rubrique à Braque. Et déjà, il a un truc, parce qu'on dit toujours Gottlieb il est fort parce que il cache plein de choses dans ses images, et c'est vrai, il cache même presque la coccinelle, c'est presque une façon de cacher d'autres choses. C'est-à-dire qu'on regarde la coccinelle parce que c'est elle qui nous attire, et finalement il y a un morceau de la vignette qui se décolle, ou il y a des trucs qui se lézardent partout dans les images. C'est plein de petits micro détails, et en fait la couverture même du tome 2, je sais pas si beaucoup de gens s'en rendent compte, mais la main gauche du personnage qui est en principal, elle a 6 doigts. On n'en compte que 5, évidemment, parce qu'on ne voit pas le pouce, mais on devrait n'en compter que 4, puisqu'on ne voit pas le pouce. Donc déjà ça, c'est très gottliebien, et ça fait, quand on est adolescent en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de voir ça, parce que on se dit, ce type est un génie, on a vite fait de trouver les types géniaux. J'aurais bien aimé, par exemple, le voir faire une dédicace. Je pense que, parce que ça passe vachement par l'énergie, son dessin. Justement, ces formes très simples et c'est son dynamisme. Je sais pas non plus à quel point il faisait des mouvements amples quand il dessinait. Ça devait être vraiment chouette de le voir dessiner. Il doit y avoir des documents où on le voit dessiner, probablement. Parce que je pense que la précision qu'il a sur les petites courbes des visages des bébés et tout ça à la fin, ça part au départ d'un geste assez vif. Et en tout cas, sur ces planches originales, ben c'est des planches qui sont imprimables telles quelles, en fait. Ah oui, ben voilà. Donc, ça y est, je me rappelle. C'est justement ce dont on parlait, là, je suis sûr. Un petit cours de dessin, c'est pas le seul, il en a fait beaucoup. Petit cours de dessin où, par exemple, il explique, bon ben voilà, il le dit d'ailleurs, il faut tracer des lignes générales, indiquer les courbes, placer les yeux, et il dessine le personnage d'Achille Talon. Et coup de génie, c'est qu'on reconnaît tous le personnage d'Achille Talon pendant l'évolution du dessin, et à la fin, il lui met juste pas le même nez. Et le simple fait de changer le nez, il le dit lui-même, il dit « terminé par le nez, et voici une tête rigolote, absolument originale ». C'est vrai que c'est un personnage qu'il utilisera ensuite pendant toute la double planche, qui n'a rien à voir du tout avec Achille Talon. Alors que tout le reste, c'est-à-dire la forme de la tête, du menton, des yeux et des oreilles, et même le petit chapeau, sont les mêmes. Donc ça, c'est quand même la maîtrise au service du gag, en fait. Au service de « eh, regardez, je vais vous faire une petite astuce, ça peut faire penser à... » Par exemple, bon, c'est un exemple, une comparaison qui est écrasante, mais Picasso, dans le film qu'il avait fait avec Clouseau, on le voit qu'il joue beaucoup pour épater un peu la galerie. Mais là, Gottlieb, il veut pas épater la galerie, il veut juste jouer. Il utilise son art pour nous faire marrer, et donc ouais, il nous fait des cours de perspective, encore une fois, avec des formes simples. Et c'est là qu'on voit le talent du dessin, parce que il fait des gags tout en faisant une des choses qui est les plus compliquées à dessiner quand on débute, en tout cas, c'est les mains et les pieds. Bon, il en fait des caisses et des caisses, il sait faire ça, les yeux fermés, des mains et des pieds. De toute façon, je pense qu'il sait tout faire. Il nous fait un cours de perspective pour faire un nœud papillon. Bon, tout en disant, bon, de toute façon, on n'utilise jamais la perspective pour faire des nœuds papillons. Donc, non, je pense qu'académiquement, il est très, très, très au point. Et toujours avec ce côté, ah oui, il y a des règles dans le dessin. Donc, par exemple, un corps égale trois têtes, et une tête égale deux mains, et une main égale trois yeux, et un œil égale trois ongles d'orteil, et un ongle d'orteil égale deux nombrils. C'est-à-dire que le début, c'est sans doute ce qu'on lui a appris à l'école, s'il est allé à l'école, en tout cas ce qu'il a dû lire dans des bouquins. Et la suite, c'est en fait, on s'en fout. En fait, on fait ce qu'on veut tant que ça, voilà, tant qu'on sent le poids du personnage, tant qu'il y a de la pesanteur et que voilà. Donc ça me plaît beaucoup chez lui, quoi.
Mais c'est quand même un vrai cours de dessin, alors.
Il se trouve que oui, il se trouve que c'est un vrai cours de dessin. Il se trouve que on peut apprendre des choses.
Le bon plaisir, 2009.
Le personnage de Tarzan, ça fait partie de ma mythologie personnelle. Et j'aime bien les mythes, de toute façon. Hein? Tarzan, c'est un mythe populaire, comme Frankenstein. Mais les mythes bibliques, comme Moïse aussi, j'aime bien les mythes. Il doit y avoir une explication encore freudienne là-dessous, quelque part. Mais j'aime bien ça. En plus, étant môme, quand je lisais des BD, qu'on appelait illustrés à l'époque, il y avait une de mes grandes admirations, c'était Burn Hogarth, et qui dessinait Tarzan avec plein de muscles partout, et que j'ai parodié à tort et à travers. Bon. Et puis alors, le Tarzan de cinéma.
Gailluron,
c'est Droupy. C'est un avatar de Droupy. Disons que c'est en BD, pour moi, c'est le premier personnage qui est venu par hasard au bout de mon crayon, et que j'ai tout de suite reconnu comme étant une espèce de partie de ma chair. C'est-à-dire que je le faisais évoluer, je le faisais parler, je le faisais bouger sans aucune difficulté, ça venait tout seul. C'est une partie de moi. Ça veut dire que Droupy aussi, dans une certaine mesure, parce que graphiquement, et puis dans sa façon de parler et de bouger, c'était Droupy. Mais en même temps, c'était moi.
Vous voulez, Catherine Robin, qualifier l'humour de Gottlieb ?
Gottlieb, c'est pas en tout cas à mes yeux, pour ce que je connais de lui, parce que je crois pas connaître tout, j'ai encore plein de choses à découvrir, mais c'est pas un adepte du gros gag à la fin de la page, tagada de soin de soin, la chute va tout dévoiler et va nous faire exploser de rire. Non. Quand on prend une planche de Gottlieb, il y a à l'intérieur même de cette planche des tas de petits détails, menus détails, parfois écrits dans une calligraphie, une taille de caractère, de lettrage toute petite, et qui sera le nœud comique de la planche. Ce qui rend la chose très intéressante d'un point de vue formel. Peut-être qu'on reviendra à la forme, mais voilà, c'est ça aussi qui est puissant dans l'humour de Gottlieb, c'est que ça, il se donne pas facilement. Et après, le type d'humour de Gottlieb, beaucoup de gens l'ont dit avant moi, mais enfin, ses références à l'humour anglo-saxon, au Monty Python, à l'humour juif aussi, donc emprunt toujours d'une certaine forme en soubassement, quelque chose de la tragédie aussi. D'ailleurs, en réfléchissant, je me disais, il a quand même comme héros récurrent cet Isaac Newton, qui est quand même le père de la loi sur la gravité, qui peut être entendu sous de diverses manières. Il a créé Isaac Newton, il le dit, et il va en faire un personnage récurrent qui se prend toujours qui est toujours plus ou moins loin d'un pommier, et qui va se prendre systématiquement une pomme sur la tête. Pas Fiat Lux, mais Eureka. Et donc, il reviendra très régulièrement dans la rubrique à braque, comme beaucoup d'autres de ses personnages, comme la coccinelle et d'autres.
La coccinelle, elle est dans un petit coin.
Elle est toujours dans un petit coin, et c'est ça qui me fait arriver à la part formelle du dessin, si vous voulez bien. La coccinelle, elle est aussi là pour nous faire un clin d'œil, pour instaurer une complicité avec le lecteur, qui fait qu'on peut pas se contenter de lire une seule fois une planche de Gottlieb. Et l'usage de ces doubles lectures, de ces triples lectures à la fois à l'intérieur même d'une case, mais aussi à l'intérieur même de la page, fait qu'il fait aussi de l'éducation à l'image, en fait, en quelque sorte, Gottlieb, je trouve. Voilà.
Possible. Je me suis toujours dessiné dans mes BD. Enfin non, à partir de la rubrique à bras, je me suis dessiné parce que j'avais pas de héros. Ça m'intéressait pas d'avoir un Tintin ou un Spirou ou un Mickey. La rubrique à bras, c'était une rubrique sans une BD sans héros. Le héros, c'était moi. Et dans le texte, je parlais à la première personne en m'adressant au lecteur, vous. Et il y avait comme une espèce de complicité. Un dialogue, peut-être un peu imaginaire, mais enfin un dialogue quand même, la preuve, on me répondait. Et donc, de ce concept de dire « je » dans le texte, au fait de me dessiner moi-même, le glissement s'est fait très facilement. En plus, je suis pas très bon en caricature, et moi, coup de peau, je me suis toujours réussi. Tout le monde me dit « vous ressemblez à vos dessins ». Et c'est curieux, ça veut dire qu'à la limite, on se dessine tous un peu, même quand on ne fait pas sa propre tête.
Vous êtes très fort pour le mouvement.
Très fort, je ne sais pas, mais enfin, c'est ce que je préfère, oui. Ouais. C'est les expressions de visage et corporelles, mouvements très outrés au maximum. Là où je ne suis pas fort, c'est dans les décors et tout ce qui est technologie. Aussi bien les voitures, les maisons, un vélo, c'est épouvantable à dessiner un vélo. Quand on regarde les vélos dessinés par Franquin, avec une roue comme ça et l'autre comme ça, je me dis, mais je m'arrache les cheveux, comment ils pouvaient réussir à... Moi, il me faut un compas, moi, pour faire les deux roues.
Tout à coup, la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvre, on ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe, en sortant de sa cage, dit « c'est aujourd'hui que je le perds ». Il parlait de son pucelage, vous l'aviez deviné, j'espère. Carogori.
Bon, il y a la fameuse double planche de la girafe, mais celle-là, tout le monde en parle tout le temps. C'est l'exemple même de comment Gottlieb exploite à mort le médium de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il décide que les cases ne seront pas un obstacle à la taille de la girafe. Lui, il se dit, c'est pas grave, je vais dépasser. Et non seulement il se dit, c'est pas grave, je vais dépasser, mais en plus, il en fait des clins d'œil avec ses lecteurs. C'est-à-dire que ses lecteurs sont tout à fait conscients qu'il joue avec ça. Il leur dit, mais il explose complètement les sens de lecture parce que finalement, où est le début, où est la fin, lui reste très classique, dont vous pouvez commencer en haut à gauche et finir en bas à droite. Mais en réalité, ça va un peu dans tous les sens parce que l'action se passe pas dans le même sens que le texte. Et il étire les cases pour étirer la girafe, ça. Mais ça, c'est la planche la plus spectaculaire dans ce sens-là de Gottlieb. Mais il le fait très souvent, en fait, d'utiliser le médium bande dessinée pour le détourner. Il dit, un lecteur, je sais pas si c'est vrai, si le lecteur lui a envoyé des idées, mais un lecteur nous a demandé de faire une rubrique sur le bouton. Il dit, ah là là, c'est passionnant le bouton, je pourrais en parler des jours. Et en fait, c'est évidemment pas, mais il y arrive quand même. Et je crois que c'est les moments où il est vraiment génial. C'est les moments où il a rien à dire et il le dit tellement génialement que en fait on se dit qu'il aurait eu tort de pas en parler. Il y avait aussi un sens de l'onomatopée qui était assez génial. Moi, je sais qu'il y a des choses, par exemple aujourd'hui, les gens qui sont très influencés par l'Amérique, quand ils vont faire une onomatopée de quelqu'un qui cligne de l'œil, ils vont faire wink wink. Ben moi, c'est clic clic parce que c'est Gottlieb. Et c'est un truc que j'ai toujours trouvé mieux, enfin plus marrant, parce qu'il aime bien faire des apartés. Pourquoi il y a tant de clins d'œil chez Gottlieb? Parce qu'il fait beaucoup d'apartés vers ses lecteurs. Il fait beaucoup de petites pauses. Il finit ses phrases par « voilà, voilà ». Avec un blanc, on sent le blanc derrière. J'aime bien cette façon qu'il a de remplir le vide, en fait.
Quand je serai grand, 2004.
À l'époque,
l'air était encore un peu pur, mais c'est pas de cette inspiration-là que vous parlez. Non. Je sais pas. Vous savez, c'est tout ce qu'on a emmagasiné. C'est un peu comme les gars qui me disent que je les ai influencés. Moi, j'étais aussi influencé par des tas de, non seulement des graphistes, des auteurs de BD, mais également par des auteurs de films, par des films, par des bouquins, et même pas obligatoirement des bouquins comiques. Mmh. On retrouve beaucoup Les Misérables, par exemple, dans mes boulots, qui sont, c'est un peu récurrent. Donc, tout ça, on amasse tout ça avant de se lancer dans la profession, moi en tout cas. Et puis ça finit par former un espèce de magma, un sac dans lequel on va piocher et qu'on restitue au travers des BD qu'on fait, que je faisais. Quoi.
Vous connaissiez, Jules, la vie, l'enfance, la vie d'enfant caché de Gottlieb lorsque vous commenciez à le lire?
Non, alors pour moi, comme je pense pour beaucoup d'enfants en général, on a du mal à voir le créateur derrière l'œuvre. Donc en fin de compte, pour moi, les bandes dessinées, elles naissaient comme par génération spontanée. C'était, il y avait une espèce de, il y avait rien, et tout d'un coup, Fiat Lux, il y avait un album. Alors Gottlieb, c'est parmi les premiers à s'être vraiment mis en scène, à se raconter avec son carton sous le bras, à dessin, allant de rédaction en rédaction, essayant de vendre ses trucs. Donc son propre personnage, c'est finalement ce qui a été formalisé pompeusement comme autofiction par la suite, était déjà évidemment développé par Gottlieb, où il se racontait. Donc tout ce que je savais de Gottlieb, c'est ce qu'il en disait. Donc je prenais pour argent comptant 100% de sa mise en scène, de sa propre vie, de son enfance, de ses amitiés. Donc pour moi, à la rigueur, je pense que c'est la seule chose qui peut valoir pour le lecteur. C'est ce que l'auteur a envie de dire. J'ai pas envie de gratter, de chercher derrière. Mais évidemment, il y avait certaines pages un peu mystérieuses. Et évidemment, quand on se met à réfléchir ensuite à ce que c'est que l'humour, ce que c'est que le dessin, il y a plein de questions qui se posent. Lewis Trondheim, moi, qui est un dessinateur que j'adore, a fait un livre qui s'appelle Désœuvré. Et dans Désœuvré, c'est, il raconte comment, il peut plus dessiner, il en a ras-le-bol de dessiner, il arrête et tout. Et du coup, en fait, évidemment, en se contredisant immédiatement, il continue à dessiner, mais il va interviewer plein de dessinateurs de différentes générations pour leur poser la question du rapport qu'ils peuvent avoir avec leur travail, de pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font, etc. Et s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de dessinateurs suicidaires, suicidés, dépressifs, traumatisés. Et évidemment, cette question, on se la pose aussi. Et c'est vrai que moi, quand je regarde les gens que j'admire, soit ils sont issus d'histoires dramatique et tragique, soit c'est des gens qui sont très très profondément saturniens. Franquin qui a été vraiment enfermé dans une dépression profonde où il pouvait plus rien faire, et Goscinny dont la famille a été décimée par la Shoah, et évidemment Gottlieb dont j'ai découvert complètement par la suite, un, qu'il était juif, deux, que son père, enfin que ses parents avaient été déportés, que son père était mort, que c'était un gamin comme ciné, machin pouvait l'être, un gamin de Montmartre, à part que lui, son destin, c'était que ses parents avaient été raflés, dénoncés par la concierge, et le côté enfant caché à la campagne, quelques planches comme ça, elles sont assez rares, sa planche avec sa chèvre, pour moi c'était juste marrant d'un gamin qui avait une chèvre, je ne me posais pas la question, mais que se rendre compte que c'était, non, je ne sais plus quelle campagne française, du Berry ou je ne sais pas où, ou du Morvan, voilà, bon, il s'est retrouvé à la campagne, un peu comme dans le vieil homme et l'enfant, où c'était extrêmement frappant. Et l'autre truc, c'était quand il a eu sa fille, et les pages qu'il fait sur sa fille, où tout d'un coup il se perd dans cette espèce de regard bizarre, et où en fait la pupille noire de la fille devient un boulet, en fait, qui est accroché. Et donc ce truc de filiation, d'héritage et tout. Et cette question-là, dont il parlait manifestement pas, et parce que, en général, cette génération avait en partage, dans leur style différent, cette pudeur par rapport à tout ça. Pour Goscinny, je pense que c'était impossible de parler publiquement, et encore moins dans ses œuvres, de tout ça. Et Gottlieb, c'était vraiment par petites touches. Mais en fin de compte, ce terreau-là, cette espèce de d'horreur totale, sur laquelle leur vie, leur liberté, leur humour, leur lumière s'est construite, c'est un paradoxe. Et en même temps, effectivement, je pense que c'est une source d'explication et de compréhension majeure. Ceci dit, est-ce qu'on a besoin de faire de l'explication de texte? Moi, je crois pas. Je pense que, en fin de compte, ce qui est le plus important, c'est vraiment le rapport de chacun avec cette œuvre qui nous rend plus libres. Voilà.
Du judaïsme, vous avez gardé quelque chose?
Oui et non. Enfin, sur le plan de la purement religieux, rien du tout. Et même sur le plan d'Israël, de l'État, rien du tout. Alors quoi?
Je sais pas, mais il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose. Il y a déjà le fait que j'ai jamais caché. Moi, je connais des gens, j'ai des copains qui hésitent à avouer qu'ils sont juifs. Et moi, jamais, il m'est venu à l'idée de cacher le moindre élément, le moindre recoin à ce niveau-là. Alors, mais en même temps, je me sens beaucoup plus français et parisien que juif.
Ta reine mutine toujours à corte, elle donne à qui les porte une grâce virile et forte, et toujours de très bonne aloi. Dépouillée de tout équivoque, la noire d'encre sans rien qui choque, cuir de vache ou bien façon phoque, elle prenne force de loi. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des chastes gendarmes. Oyez le plaisant vacarme, c'est là tout le charme des chaussettes à clous.
Moi, les occasions que je les rencontrais, c'était souvent des choses en rapport avec Fluide Glacial. Il y avait des hors-séries. Moi, je travaillais beaucoup. Il y a toute une bande autour de lui, un peu historique. C'était les Moustachus pour moi. Étant enfant, il me fascinait parce qu'ils posaient tous ensemble, Gottlieb et ses copains, dans les romans photos de Fluide. Donc, je voyais leur tête, on savait, même si Gottlieb lui-même se mettait en scène. Mais donc, il y avait Frémion, Léandry, et puis ensuite GB, avec qui j'ai travaillé à Charlie Hebdo, qui était la figure de l'inspecteur dans les albums de Gottlieb. Et donc avec eux, finalement, c'était plus facile de parler, plutôt qu'à Dieu, de parler à ses saints, en fait. Et donc je me suis approché de Gottlieb à travers eux. Et donc lui, dans ces occasions-là, m'a toujours paru extrêmement bienveillant, aimable avec les gens qui étaient autour de lui. Mais en fin de compte, il fait tellement l'unanimité, Gottlieb, que tout le monde était autour de lui à le presser. Il y avait toutes sortes de solliciteurs ou d'admirateurs ou de gens que j'ignorais qui ils étaient. Donc en fin de compte, il y avait une forme, une espèce de barrière autour. Et lui, je l'ai trouvé toujours de loin extrêmement aimable et simple et comme en général dans la bande dessinée, de toute façon, anti-star. C'est quand même un art fabuleux, du moins une activité fabuleuse, où les gens peuvent vendre des millions d'albums, être des célébrités internationales, et ils restent quand même amicaux, simples et normaux. Il suffit d'aller au Festival d'Angoulême pour voir ça, là où le moindre petit freluquet qui a joué dans un long métrage de cinéma tout d'un coup se prend pour le sel de la terre. Ben, en bande dessinée, les gens qui vendent des millions d'exemplaires, des gens qui sont publiés partout, que tout le monde admire, ils restent absolument semblables aux débutants presque. Et ça, c'est attachant, c'est sympathique, et voilà, ce qui fait que j'aimerais pas tellement changer de travail, même si aujourd'hui, en bande dessinée, on passe d'un monde à l'autre, ça reste quand même un peu la maison mère.
Dans mon esprit, l'Écho des savanes était quelque chose de pour rigoler. Donc, j'ai participé à ce numéro 1 avec Claire, à Bretéché, et puis au bout de deux ou trois numéros, c'était des trimestriels, je me suis aperçu que ça prenait pour moi beaucoup plus d'importance que le travail que je faisais à Pilote. En fait, c'était une espèce d'évolution. Dans mon esprit à moi, c'était aller plus loin, parce qu'il fallait tenir compte de la boîte, il y avait des barrières qu'on ne pouvait plus franchir. Et là, avec l'Écho des savanes, faire joujou au début, je me suis amusé à franchir ces barrières, encore une fois, sans arrière-pensée d'en faire une évolution professionnelle. Je me suis rendu compte que si. Bon, alors,
Qu'est-ce que ces barrières dont vous parlez?
Ne serait-ce que tout simplement les barrières commerciales de l'éditeur. Il y a des limites qu'on ne peut pas outrepasser sans pour autant qu'on puisse hurler à la censure. Et tout ça, c'est une question de bon sens.
Oui, mais dites un peu, parce que c'est vrai que...
Par exemple, le sexe, la politique, des choses comme ça.
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Quand on est 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con. Entre vous, plus de controverses. Con caduc ou con débutant. petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
L'esprit fluide glacial, pouvez-vous le définir, Pascal Horry ?
On est bien sûr dans le comique. On est quand même dans une volonté de trop. C'est trop quelque chose, c'est caricatural, si vous voulez. Bon, mais la caricature, c'est un art, hein, c'est un art très ancien, multiséculaire. C'est une volonté de coller à l'époque. Il y a l'idée aussi, je pense qu'avec le temps, ça s'est précisé, que, contrairement à ce que pensaient les anciens romains, on ne châtiait pas forcément les mœurs en riant, on ne châtiait rien du tout, mais on pouvait rire. Et en effet, je pense que Gottlieb, de même que René Goscinny lui avait dit ben, « maintenant, vas-y », on a travaillé ensemble pendant 2 ans, « vas-y », je pense que Gottlieb a encouragé des dessinateurs, des auteurs, dans ce sens-là, à savoir, oui, un comique, certains diraient un humour, un truc, ouais, humour sans H, tout ça, mais je dirais un comique du trop. Ce qui fait que, évidemment, c'est assez clivant. Ça doit, on le prouve, puisque ça survit très bien, mais ça doit attirer aussi beaucoup, beaucoup de lecteurs, parce qu'il n'y a pas énormément d'équivalent. C'est évidemment pas le Canard enchaîné. C'est pas non plus Charlie Hebdo. Je pense pas qu'il y ait vraiment l'équivalent en France aujourd'hui. D'ailleurs, même à l'échelle mondiale, parce que, disons-le quand même, ces formes de comiques satiriques sont très menacées par, pour le coup, des censures auxquelles ils ne s'attendaient pas. D'ailleurs, ça a donné des morts à Charlie. C'est-à-dire la censure moralisatrice par la société civile. Avant, on attendait le moment où l'État, hein, parce qu'en France, l'État, toujours l'État, allait censurer, bon, balle tragique à Colombet, à mort. Mais c'est fini, ça. Aujourd'hui, le désir de censure, il est présent dans des associations de la société civile qui défendent des intérêts, des lobbies, et qui baillonnent. Une des plus tristes nouvelles, c'était il y a quelques mois, c'est d'apprendre que le New York Times renonçait à publier des dessins parce que vous aviez tout de suite les communautés, les féministes, les antiféministes, qui allaient faire des procès. Et voilà. Là, c'est, je pense que les contemporains de Gottlieb, les contemporains de Goscinny, les contemporains du fondateur du Canard n'auraient pas pensé à ça. Eh bien ça, c'est la situation du XXIe siècle.
Est-ce qu'il y a de la politique, Olivier Bocquet, dans les planches de Gottlieb ?
J'ai pas l'impression que, en tout cas dans le souvenir que j'en ai, il n'y a pas de politique chez Gottlieb. En revanche, il n'y a pas non plus de politiquement incorrect. C'est pas du tout quelqu'un qui va être militant, mais on va jamais voir de trucs sexistes chez lui, on va jamais voir de trucs racistes, on va jamais voir... Il fait pas de la provocation, quoi. C'est pas son truc, la provocation. Je pense aussi que maintenant que je sais qu'il a été un enfant juif pendant la guerre, il doit être assez sensible aux choses qui peuvent blesser profondément les gens sur ce qu'ils sont. Donc ça, il ne le fait pas, jamais. Du coup, il y a quelque chose de... Non, de pas de politique. D'ailleurs, c'est un peu aussi un point commun avec, par exemple, les nuls, ou avec les Monty Python, ou avec Calvin et Hobbes, où c'est pas politique. C'est juste sur l'humanité, c'est juste sur nos petites hontes et nos petites faiblesses, et c'est juste sur nos arrogances. C'est finement observé tout le temps, mais de manière à ce que personne ne se sente agressé ou à n'être méchant avec personne.
Il y a un autre dessinateur ou scénariste, Olivier Bocquet, pour lequel vous avez autant de tendresse ?
Alors, en dehors de Bill Watterson et de Schultz, l'auteur des Peanuts, je pense que lui, il est vraiment... il fait partie de vraiment ceux que j'emmènerais sur une île déserte. Et je pense en tant que dessinateur, j'ai une énorme admiration pour Uderzo. Mais Gottlieb, il a quelque chose qui m'a vraiment mis de la lumière dans le cœur, voilà, en fin d'adolescence, à une époque où ma vie était incertaine, où je savais pas ce que j'allais devenir, et où les choses deviennent moins drôles parce que justement on devient adulte, on voit moins de lapins dans les nuages. Et lui, il m'a réenchanté, quoi, vraiment.
Patrice Lecomte, vous parliez avec Marcel Gottlieb de sa vie, de son enfance, de sa vie d'enfant caché, de ses parents.
On n'a jamais parlé ensemble de son enfance. C'est en lisant son livre de mémoire que j'ai appris tout ça, et je ne savais pas. Est-ce que j'ai manqué de curiosité, ou est-ce que j'ai été discret, ou est-ce que je ne pouvais pas soupçonner que son enfance avait été tellement sombre? Je ne sais pas pour quelle raison, mais on s'en est jamais parlé. Il était très discret là-dessus, en fait. Je ne sais pas s'il avait tellement envie d'en parler, d'en faire étalage. Alors que quand on en parle dans un bouquin, on en fait d'une certaine manière étalage, mais on en parle de manière intime, parce que quand on écrit un livre, on est tout seul avec son ordinateur ou son stylo aux billes, et après il y a des lecteurs, mais c'est pas comme de parler à quelqu'un, d'avoir quelqu'un en face de soi et de dire voilà, mon enfance a été très sombre, je vais te raconter. C'est pas la même chose. Non, mais j'ignorais tout ça.
Vous n'êtes pas du genre à éprouver le besoin.
Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas du tout du genre à chercher des racines.
Non, ou alors c'est tellement refoulé que j'ai probablement besoin de me raccrocher à des racines. Par exemple, cette espèce d'attachement hors norme que j'ai pour mon petit-fils, et c'est caractéristique de cette... Moi-même, je m'en serais pas senti capable d'éprouver ça. Donc ça veut dire que quand le copain, le papa de Marius, qui a une très très nombreuse famille, quand ma fille et lui vont dans la famille et qu'ils sont 30 à table, je suis un peu jaloux. Parce que moi, ma famille, du côté de ma mère, il me reste une ou deux tantes en Amérique, il y en a que j'ai jamais connu. Et du côté de mon père, je n'ai connu personne. Donc, j'ai pas l'impression de souffrir d'un manque de racines, d'une lacune à ce niveau-là, mais je pense que c'est refoulé.
Au mi-temps des années 80, Gottlieb arrête d'écrire, il est jeune, il a 50 ans. Vous savez pourquoi, Olivier Boguet ?
J'en ai aucune idée, mais je pense que ça fait partie de l'admiration que je lui porte. C'est un point commun qu'il a avec Bill Watterson sur Calvin Hobbes, qui un jour s'est arrêté. Et tout le monde s'est demandé pourquoi, et il a jamais vraiment expliqué. Il a dit non mais c'est bon, j'ai fait le tour. Et depuis, il est retiré dans ses montagnes, et il fait de la peinture et on ne le voit jamais. Et en fait, j'aime bien ces gens qui décident de s'arrêter plutôt que de continuer jusqu'à s'user complètement. Donc non, je ne sais pas du tout. J'ai pas vraiment cherché à savoir, mais je trouve ça admirable.
Est-ce que vous savez, vous, Patrice Lecomte, pourquoi Gottlieb a arrêté si tôt de travailler ? Enfin, pas de travailler, mais de dessiner.
Curieusement, quand Gottlieb ils ont d'abord fait l'écho des savanes, puis après Gottlieb a fondé Fluide Glacial, et il est devenu directeur de journal, et j'en ai parlé un peu avec lui de pourquoi il dessinait un peu des cabochons, le dessin pour la page de garde, enfin des choses comme ça, mais assez peu de choses. Et je crois qu'il avait perdu le jus, en fait. Il a tellement dessiné, il avait plus autant de plaisir à dessiner, et je devrais pas dire ça parce que c'est pas très aimable, mais je trouve que les derniers dessins qu'il a pu faire, qu'il faisait pour compléter un peu un éditorial ou que sais-je, dans Fluide Glacial, c'était bien parce qu'il avait toujours la technique et tout, bien sûr, mais on sentait que quelque part le ressort était un peu cassé, usé en tout cas, et que ça l'amusait moins de dessiner. Donc il recevait les dessinateurs, il lisait les scénarios, il recevait les pages, il publiait, il dirigeait un journal, enfin pas tout seul bien sûr, mais ça lui convenait assez bien. Mais c'est curieux en effet qu'un type qui avait tellement de talent, qui dessinait avec tellement de... Son dessin était à la fois léger et laborieux, c'est-à-dire qu'il était, je dis pas que quand il dessinait il tirait la langue, mais c'était un dessin très soigné, très propre, et pas, enfin, Reiser, par exemple, que j'adore, il y a un côté, et puis d'autres dessinateurs que j'aime beaucoup, il y a un côté Crobar, pas gribouillis, mais enfin bon, c'est jeté comme ça, mais c'est talentueux. Hein. Et Gottlieb, c'était pas la ligne claire de la Belgique, mais c'était quelque chose de très très appuyé, très propre. Son dessin était très net, très propre. Et il a dû peut-être, je sais pas, parce qu'on a assez peu parlé ensemble, il a dû en avoir marre de dessiner.
Qu'est-ce qu'ils disent les autres sur Gottlieb ? C'est un mec tellement retranché. Hein ? C'est un mec tellement... Il n'est pas impénétrable parce que...
Claire Bretéché, dans Le Bon Plaisir, 2009.
Comme il veut pas le dire, c'est pas aux gens qui croient avoir compris quelque chose de le dire. C'est ça qui est... Hein ? Bon, alors, les impressions possibles à dire, c'est que c'est un mec extrêmement peu sûr de lui, mais c'est quand même assez classique, qui considère qu'il n'a aucune culture parce qu'effectivement il a été élevé dans des orphelinats et qu'il n'a pas fait d'études et qu'il est primaire, c'est un primaire remarquablement intelligent et qui finalement est un autodidacte formidable parce qu'il passe son temps à lire et à lire d'une façon, je dirais appliquée, c'est péjoratif, mais il lit pour comprendre, il veut comprendre et il comprend et finit par avoir une espèce de culture personnelle absolument incroyable. Voilà, bon, ça on peut dire ça déjà. Quoi d'autre ? Alors, sur le plan humain, une crème. C'est un type qui il veut pas qu'on l'emmerde. Puis il est difficile à déplacer.
Il a très peur d'embêter les autres.
Il a tout le temps peur de déranger.
Ouais. Mais c'est pas non plus un comique qui va aligner des bons mots
Si.
Toutes les 30 secondes. Si.
Non, si, il est calembourdeux comme c'est pas possible. Si. Il est extrêmement drôle. Même quand il veut pas vraiment être drôle, il a d'abord un physique comique, une façon de parler à tomber par terre. Toute sa façon d'être est drôle, moi je trouve. Hein. Alors qu'il est pas. Il peut peut-être se considérer lui comme un être tragique et déchiré. Il est marrant à voir. Il sait bien d'ailleurs. Il sait bien puisqu'il s'est dessiné sous toutes les coutures. Et il est toujours très ressemblant sur ses dessins. Et en plus, il a absolument pas changé de tranche depuis qu'il a 30 ans. Donc il dessine plus malheureusement. Mais bon. S'il se dessinait, il se dessinerait toujours de la même façon.
Je signale que Marcel Gottlieb s'accompagne lui-même à la guitare, vieux routier du métier.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
Avec Jules, dessinateur. Catherine Robin, journaliste. Olivier Bocquet, scénariste de bande dessinée. Pascal Horry, historien. Et Patrice Lecomte, réalisateur. Archivina Véronique Jolivet. Extrait du Tribunal des flagrants délires de Claude Villers, 1981. De Quand je serai grand de Philippe Bertrand, 2004. Et du Bon plaisir de Marcel Gottlieb par Ruth Stegassi, 2009. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Claude Niort. Coordination, Christine Bernard.
Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons. Qui constelle les petits bleus pour des cons.
Mais c'était toute une vie. Marcel Gottlieb. Voilà, voilà. Virginie Bloch-Lenné. Clotilde
Pivot. À l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur franceculture.fr, un site préparé et enrichi par Daphné Abgral et Maude Jussaume. À 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.